Vous écoutez, on lit pour vous.
Bruny Surin lance son académie de sprint à Montréal. Un texte de William Thériault, paru le 26 mai 2026 dans la presse. Le rêve olympique, Bruny Surin l'a vécu en grand. Dans son esprit, il est maintenant l'heure de redonner. Lorsqu'on entre dans le centre d'entraînement, les équipements classiques sont là, les machines, les tapis, les haltères. Mais au centre repose la pièce maîtresse et ce qui fait l'unicité de l'académie, deux couloirs d'athlétisme de 20 mètres munis du revêtement utilisé lors des compétitions mondiales. Sur la murale principale, on lit trois mots. Encadrer, développer, exceller. L'endroit, une sorte de laboratoire sportif, a été officiellement inauguré en avril 2026. Les lieux sont bien gardés. L'académie se trouve dans les bureaux d'une firme d'architectes dans le quartier Petite-Bourgogne, dans le sud-ouest de Montréal. C'est là que l'ex-champion du monde et son équipe nous accueillent. Je reçois souvent des messages de parents qui demandent des conseils, et j'ai toujours voulu m'impliquer. Avant d'être des joueurs de football, de soccer ou de basketball, les jeunes sont avant tout des athlètes, explique celui qui a été champion olympique et champion du monde sur les pistes dans les années 1990. À l'approche de la soixantaine, Bruny Surin ne court plus. Mais discrètement, dans les derniers mois, il a commencé à prendre sous son aile des jeunes dès l'âge de 10 ans. Ceux-ci aspirent souvent à atteindre le palier universitaire ou les rangs professionnels dans leurs disciplines respectives, et l'ancien sprinteur fera tout pour les propulser vers cet objectif. Ce serait un vœu lourd qu'on ait un athlète d'ici et qu'on l'amène au jeu. C'est le but ultime, dit Bruny Surin. À travers des séances privées ou semi-privées, il peaufine le départ explosif, la phase d'accélération, l'endurance de vitesse et l'agilité multidirectionnelle. Les résultats recherchés comprennent un meilleur temps de réaction, une accélération des premiers appuis, une vitesse optimisée sur le terrain et une plus grande confiance en situation de jeu, tous des éléments adaptés selon le sport. Je veux donner, donner, donner. Exemple. On avait un jeune de baseball qui est venu, et après la session, je cherchais encore comment l'aider. La journée de ses tests, j'avais de la misère à dormir parce que j'étais stressé pour lui. Bien entouré. Dans ce projet, Bruny Surin compte sur deux appuis de taille, des amis et collaborateurs de longue date qui ont accepté de sauter à pieds joints avec lui. D'un côté, Marc-Élie Toussaint. Amoureux de statistiques avancées, il est expert en développement de la vitesse pour des athlètes de la NFL et de la LCF, en plus d'être préparateur physique pour les Alouettes de Montréal. J'ose croire que le potentiel du Québec est beaucoup plus grand qu'on le pense, affirme-t-il, entre deux démonstrations de ses capteurs optiques. De l'autre, Martin Grenier, lui aussi olympien, le Sherbrookeois a représenté le Canada aux Jeux d'Athènes en 2004 lors de l'épreuve du relais 4 x 100 mètres. Et plus récemment, aux Jeux de Paris, il a été embauché par la délégation de Chine comme entraîneur en athlétisme. L'ex-athlète de 46 ans prône la persévérance, une qualité qui va te suivre tout au long de ta vie, et rappelle que rien n'arrive du jour au lendemain. Globalement, le trio souhaite offrir un encadrement haut de gamme mais accessible pour le grand public. Les trois hommes estiment que leurs compétences réunies, mariées à la présence de corridors d'athlétisme à même leur centre d'entraînement, font de l'Académie un centre unique au Québec, voire au Canada. Après avoir accueilli quelques joueurs des Alouettes comme le quart arrière David Alexander, l'Académie de sprint vise à encadrer des membres du Canadien de Montréal ou des joueurs de hockey de la LHJMQ. Elle envisage aussi une expansion à 6 corridors de 60 mètres dès l'automne pour réaliser des entraînements de groupe. À travers cela, la philosophie du sprinteur montréalais demeure claire. Respecte ton sport et il te le redonnera. La ligne est droite, il n'y a pas d'histoire de détour ou de tricherie, dit-il. Tu dois être une bonne personne, même en dehors de la piste d'athlétisme ou du terrain, et tu dois avoir de l'humilité. Bruny Surin en chiffres. Né à Cap-Haïtien, en Haïti, le 12 juillet 1967, 58 ans. arrive au Canada en 1975 à l'âge de 8 ans. Co-détenteur du record canadien au sprint 100 mètres, 9,84 secondes. Champion olympique du relais 4 fois 100 mètres aux Jeux olympiques d'Atlanta de 1996. Deux fois champion du monde du relais 4 fois 100 mètres, Göteborg 1995 et Athènes 1997. Deux fois champion du monde en salle du 60 mètres, Toronto 1993 et Barcelone 1995. Six fois champion canadien du 100 mètres, 1989 à 1991 et 1998 à 2000. C'était Bruny Surin lance son Académie de sprint à Montréal. Un texte de William Thériault paru le 26 mai 2026 dans la presse.
Ce roi qui veut faire taire, c'est fou. Un texte d'opinion de Boucard Diouf, paru le 23 mai 2026 dans la presse. Donald Trump a eu la tête de Stephen Colbert et veut celle de Jimmy Kimmel, de Jimmy Fallon et de tous les autres qui font des blagues sur l'anomalie présidentielle qu'il est. Trevor Noah, un autre célèbre humoriste américain d'origine sud-africaine, a aussi été menacé par le président Trump à cause d'une blague particulièrement savoureuse. En parlant du Grammy récompensant la chanson de l'année, il avait dit à peu près ceci. C'est un Grammy que tous les artistes convoitent presque autant que Trump désire mettre la main sur le Groenland. Ce qui est logique, car depuis qu'Epstein est mort, il cherche une nouvelle île où traîner avec Bill Clinton. Le lendemain du gala, sans oublier de dire à quel point il était mauvais, Donald avait menacé très fort de poursuivre Trevor Noah. Mais probablement parce qu'il ne veut pas être forcé d'ouvrir cette boîte de Pandore que représentent ses relations avec le défunt criminel sexuel dans un procès médiatisé, il a peut-être abandonné l'idée. Je fais partie des gens qui sont tristes de voir un grand comique de la trempe de Stephen Colbert faire les frais de ce casseur d'humoristes qui dirige les États-Unis. En plus, dans la ligne de mire de Donald Trump se trouve Jimmy Kimmel, qui est probablement son critique à blague le plus acerbe. Le regard satirique que pose Kimmel sur les faits et gestes du président est d'une finesse qui me fait du bien. Si les autocrates s'acharnent sur les comiques, c'est parce que le ridicule les terrorise. L'humour est une arme redoutable contre le culte de la personnalité. C'est une manifestation de notre humanité qui sert à lancer de la bouette à ceux qui se croient inatteignables. Le temps d'une blague, d'un spectacle ou d'une caricature, le comique peut redonner le pouvoir à ceux qui subissent la violence des plus forts. L'humoriste fragilise ainsi la frayeur qu'un dictateur croit inspirer, car lorsqu'elle est bien amenée, la blague peut se propager à la vitesse de la lumière dans les masses laborieuses et exposer au grand jour les côtés laids et cons de celui qui se croyait intouchable. Et quand le roi est nu, disaient nos anciens, on a le droit de rire de lui intérieurement aussi longtemps qu'on veut. Donald Trump peut donc faire perdre des émissions à des humoristes, mais il ne pourra pas mettre l'humour au pas. Au contraire, tant qu'il sera dans le décor, les blagueurs ont de beaux jours devant eux. Ceux qu'il fait virer trouveront d'autres plateformes pour continuer à le railler abondamment. Parfois, en regardant le spectacle politique autodestructeur qui se joue aux États-Unis, je pense aussi à un autre comique, le défunt George Carlin, qui, à mon avis, était le meilleur critique comique de la société américaine. Encore aujourd'hui, ses textes sur la surconsommation, la politique, la religion, le libre choix, le racisme, l'impérialisme américain et bien d'autres enjeux sociaux n'ont pas vieilli. Certains semblent même prémonitoires. Je me demande ce qu'il aurait pensé de cette triste saga qui se joue dans son pays. Je parle de tristesse, car Donald Trump est en train de saccager profondément ce qui fait la grandeur de l'Amérique. Carlin aurait certainement tiré sur tous ces élus terrorisés qui, pour préserver leur portion de pouvoir, ferment honteusement les yeux devant la corruption et le massacre à la tronçonneuse que Donald Trump orchestre contre les institutions démocratiques. Le mandat d'aucun autre président américain n'aurait survécu à un dixième de ce qu'il a déjà fait. Mais revenons à son acharnement sur les comiques. Les autocrates narcissiques détestent tout ce qui peut bousculer l'image de perfection et de puissance qu'ils croient projeter. Ainsi, Adolf Hitler et les nazis étaient allergiques à la caricature. En 1939, à la demande du Führer, le régime avait formellement interdit aux comiques de se moquer de sa moustache et de son salut nazi. D'ailleurs, à cause de son film satirique intitulé « Le dictateur », Charlie Chaplin avait été complètement banni d'Allemagne. Joseph Staline aussi pouvait envoyer des gens au goulag pour une simple blague politique jugée anti-soviétique. Soulignons aussi les nombreuses manœuvres d'intimidation et les poursuites intentées par Recep Tayyip Erdogan contre des humoristes, des caricaturistes et des journalistes satiriques pour insulte au président. Un dernier exemple, le président chinois non plus ne tolère pas qu'on ironise sur ses politiques et sur sa personne. La preuve, sa machine à censure a banni les mèmes et les images satiriques qui le comparaient à Winnie l'ourson sur l'Internet. Dans son rapport à la dérision, Donald Trump semble un peu plus proche des méthodes de Joseph Staline, qui utilisait le cynisme et l'humour sadique pour manipuler, opprimer et contrôler les autres. Le président américain manie très bien l'humour, mais malheureusement, comme Staline, quand il fait rire, c'est très souvent pour s'attaquer violemment à une personne en parlant de son physique ou de son quotient intellectuel. Ma blague stalinienne préférée glanée sur le net pour terminer. Un jour, Staline, qui croyait avoir perdu sa pipe, appelle son chef de la police secrète, Beria, et lui ordonne de tout faire pour la retrouver. Or, quelques heures plus tard, Staline retrouve sa pipe et appelle Beria pour annuler l'enquête. Beria répond alors que l'on a arrêté 100 personnes et que 99 d'entre elles ont déjà avoué avoir volé la fameuse pipe. Et Staline de répondre « Seulement 99? Alors poursuivez l'enquête. » C'était « Ce roi qui veut faire taire ses fous ». Un texte d'opinion de Boukhar Diouf, paru le 23 mai 2026 dans la presse.
Pourquoi accélérer le développement éolien au Québec? Un texte de Juliane C. Lelarge, paru le 16 mai 2026 dans Le Devoir. Alors que les besoins en énergie électrique augmentent sous l'effet de l'électrification des transports et des bâtiments, le gouvernement accélère le développement de la filière éolienne. Cette avenue constitue-t-elle une réponse durable aux défis énergétiques du Québec? pourquoi Hydro-Québec cherche-t-elle à augmenter sa production électrique? On a une ambition de décarbonation qui est parmi les plus ambitieuses sur la planète, explique Matthew Johnson, vice-président principal au développement chez Hydro-Québec et responsable du dossier éolien. Les énergies fossiles comptent pour 50 % de notre énergie. Pour faire la transition vers autre chose, on doit avoir une vraie disponibilité de la ressource en électricité. La demande en électricité au Québec devrait en effet croître dans les prochaines années sous l'influence de l'électrification des transports et des bâtiments, souligne François Bouffard, professeur de génie électrique à l'Université McGill. Un chargeur de véhicules électriques à la maison, par exemple, c'est l'équivalent de rajouter un chauffe-eau, explique-t-il. À l'instar d'Hydro-Québec, il mentionne l'effet de la croissance démographique et de la construction de nouveaux logements, souvent plus grands et plus énergivores. Au Québec, les périodes de pointe de consommation d'électricité sont fortement corrélées à la demande en chauffage résidentiel, rappelle-t-il, soulignant la nécessité de développer un réseau capable de répondre à ces pics de consommation. La société d'État déclare également vouloir encourager le développement industriel. On veut attirer de nouvelles industries sur le territoire québécois, comme on l'a vu récemment avec l'intérêt pour l'hydrogène ou la filière batterie, explique Pierre-Olivier Pinault, titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal, mentionnant l'intérêt actuel pour le développement de centres de données. Il souligne également la pression exercée pour accroître les contrats d'exportation d'électricité, une source de dividendes importante pour l'État, et l'apparition de nouvelles instabilités géopolitiques qui rebrassent les cartes en matière d'énergie. Devant une demande en croissance, le réseau actuel ne fournit pas. La manière dont on a planifié la transition énergétique et l'exportation d'énergie, ça a laissé à désirer ces 10 dernières années en ne prenant pas en compte l'instabilité des ressources en eau, constate Pierre-Olivier Pinault. Il note que depuis 3 ans, on observe que les quantités sont faibles dans les réservoirs d'Hydro-Québec, alors que croissent les craintes de ne pas être en mesure de subvenir à la demande. Dans un contexte où il ne reste plus vraiment de rivières à harnacher au Québec et où la production hydroélectrique demande beaucoup de ressources, Hydro-Québec est poussé à explorer de nouvelles avenues, conclut François Bouffard. Pourquoi faire le choix de développer la filière éolienne? Le choix de l'éolien tient en grande partie à sa facilité de déploiement et à son plus faible coût. C'est beaucoup plus simple à construire qu'un barrage qui ne rentrera pas en fonction avant au moins 10 ans, rappelle Pierre-Olivier Pinault. Il ajoute que l'éolien, moins destructif pour les territoires, bénéficie d'une meilleure acceptabilité sociale et demeure moins coûteux que la mise en place de panneaux solaires à grande échelle. Quant aux promesses de la filière, François Bouffard se montre optimiste. L'éolien se marie bien à notre géographie. Le Québec est venteux, on a aussi de l'espace et une possibilité d'implanter des parcs éoliens près des centres de consommation. Il note que développer de nouvelles filières permettrait également de diversifier un réseau encore très axé sur la production hydraulique. C'est de l'eau qu'on va pouvoir conserver derrière les barrages. C'est l'avantage. On peut stocker plus et utiliser cette énergie lorsque sa valeur est plus intéressante, comme pour répondre à la demande lorsqu'il fait très froid, explique-t-il. Quels défis sont à prévoir? L'éolien présente un certain nombre de désavantages. D'une perspective technique, la technologie est réputée moins stable et présente un plus grand risque de panne, explique François Bouffard. Elle est également moins efficace dans les moments de forte demande d'énergie, comme pendant les grands froids. Plus largement, la perspective d'accroître la production énergétique québécoise exigera une série d'ajustements. Le raccordement de cette nouvelle capacité au réseau existant, pas toujours en mesure de supporter une intensité accrue, constitue l'un des principaux défis. L'exemple le plus probant, c'est la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. Ce sont des régions où on a un potentiel éolien qui est très intéressant, mais où le réseau n'est pas en mesure d'intégrer plus d'énergie, explique-t-il, soulignant que l'annonce récente d'une ligne haute tension jusqu'à Rivière-du-Loup pourrait permettre de pallier la situation. En matière de développement, le modèle actuel, qui permet à des entreprises privées de développer des parcs éoliens pour alimenter directement leurs installations, demeure source de débat. C'est faire fausse route, déplore François Bouffard. Il faut mettre le plus possible de ressources en réseau pour construire moins et plus intelligemment. À cet égard, les experts soulignent que la place du privé dans la production énergétique constitue un choix de société. Le public n'est pas nécessairement une panacée. Il est parfois moins agile, plus politique, soutient Julie Ride-Forgette, présidente de l'organisme Terre publique. Mais on peut aussi se demander si le privé fait parfois trop d'argent sur les sacrifices que fait le public. Le développement de la filière éolienne est-il une bonne nouvelle pour la transition climatique? Oui et non. Pour François Bouffard, elle permet surtout d'opérer un véritable pivot vers les énergies renouvelables. Le pétrole et le gaz doivent rester dans le sol. Pour l'éolien, si les communautés disent oui et qu'elles en tirent des bénéfices, pourquoi pas? Être riche en énergie à faible carbone est un atout très important. D'autres experts remettent cependant en question la compatibilité d'une production accrue en énergie avec la transition écologique. Selon Julie Ride-Forgette, l'électrification exige un recours accru à des composants minéraux, ce qui stimule le développement minier. Les projets éoliens et miniers, ensemble, appliquent une grande pression sur le territoire. La question, c'est: est-ce que notre transition énergétique contribue véritablement à notre transition écologique? Il faut qu'on puisse calculer l'empreinte sur le territoire, sur la biodiversité et les écosystèmes. C'est certain que la vraie solution demeure plus de sobriété énergétique. Mais au Québec, société énergivore, c'est encore très difficile de vendre cette vision, explique Pierre-Olivier Pinault. Il évoque l'idée d'encourager les citoyens et les entreprises à revoir leurs habitudes énergétiques en laissant leur consommation excédentaire à leur charge. Pour les individus, ça pourrait être de les encourager à installer des panneaux solaires ou à mutualiser l'énergie à l'échelle des collectivités. Bref, à prendre conscience de leurs dépenses en énergie. C'était « Pourquoi accélérer le développement éolien au Québec ?» un texte de Juliane C. Lelarge, paru le 16 mai 2026 dans Le Devoir.
À la dérive avec les icebergs. Un texte d'Éric Pierre Champagne, publié dans la presse du 15 mai 2026. En sous-titre, dès leur naissance, ils sont voués à disparaître. Ils avancent lentement, 90% de leur masse se trouvant sous l'eau. Victimes du réchauffement planétaire, ils sont plus nombreux, mais ils fondent aussi plus rapidement. Bienvenue dans le monde des icebergs. La naissance. Les icebergs qu'on aperçoit au large de Terre-Neuve proviennent généralement de glaciers situés au Groenland. De différentes tailles, des masses de neige et de glace formées d'eau douce se détachent d'un glacier et tombent dans la baie de Baffin. La naissance d'un iceberg, qu'on appelle vélage, est aussi un événement spectaculaire. Dans l'hémisphère nord, le plus gros iceberg a été répertorié en 1882. Il faisait 13 km de long sur 6 km de large. Le début du voyage. Entre 10 000 et 40 000 icebergs de tailles différentes vont dériver chaque année dans les eaux canadiennes. Une fois dans l'eau, l'iceberg va se repositionner en fonction de son centre de gravité. L'eau de mer étant plus chaude que la glace, un iceberg commence à fondre dès sa naissance. Il peut basculer dans l'eau plusieurs fois durant son périple. Il se déplace au gré des courants marins et du vent et parcourt une distance moyenne de 15 à 20 km par jour, d'abord dans la baie de Baffin, avant de se diriger vers le sud. Cap au sud. En quittant la baie de Baffin, un iceberg entreprend son véritable voyage qui le conduira à sa disparition complète. En fondant, il libère de l'eau douce qui a tendance à flotter à la surface vu qu'elle est moins dense que l'eau salée. Les icebergs sont principalement constitués de neige compactée depuis des milliers d'années, emprisonnant des bulles d'air. Au moment de la fonte, ces bulles d'air éclatent, provoquant un son qu'on appelle Bergy-Seltzer, B-E-R-G-Y, Seltzer, S-E-L-T-Z-E-R, ressemblant au pétillement d'une boisson gazeuse. L'attraction touristique. Chaque année, entre le début du mois de mai et la fin de juin, de nombreux touristes se rendent à Terre-Neuve pour y observer les icebergs. On estime qu'entre 400 et 800 icebergs, les plus gros spécimens, se rendent chaque année aussi loin à partir du Groenland. On en récupère des morceaux pour les faire fondre, obtenant ainsi une eau vieille de 10 000 ans, qui sert notamment à fabriquer de la bière d'iceberg, l'iceberg beer. La disparition. Une fois arrivé au large de Terre-Neuve, un iceberg est pratiquement rendu à la fin de son parcours. Il ne franchira pas la limite des grands bancs situés au sud de l'île où le courant du Labrador rencontre le Gulf Stream chargé des eaux plus chaudes en provenance du sud. Son périple aura duré en moyenne de 2 à 3 ans. En 2025, on a répertorié 250 icebergs qui ont dépassé la limite du 48e parallèle, situé à la hauteur de la capitale, Saint-Jean. Fin de ce texte d'Éric-Pierre Champagne, titré « À la dérive avec les icebergs », publié dans la presse du 15 mai 2026.